Admettons ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée. Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Midi et des Poussières. Nous sommes en direct en ce mercredi 21 janvier depuis Florac et à travers les ondes de la bande FM sur le 107 ou via les internets sur radiobartas.net. Et alors que les incendies qui se sont déclenchés ce week-end dans le sud du Chili restent pour l'instant hors de contrôle, que les flammes continuent de tout emporter sur leur passage, la Corporation Nationale Forestière Chilienne indique que 40 000 hectares sont déjà partis en fumée. Eh bien, une meilleure nouvelle nous est annoncé par France 3 Occitanie, 3 ans après l'incendie qui a dévasté près de 1000 hectares de végétation autour de Cerbère dans les Pyrénées-Orientales. L'espoir renaît. L'Office national des forêts a décidé de replanter 3500 arbres et arbustes adaptés au climat méditerranéen, résistant aux fortes chaleurs. Il faudra de la patience, ces arbres grandiront lentement, mais leur présence sera durable et des jeunes chênes arbousiers ou caroubiers dressent déjà leurs premières pousses. Et ici, dans le Parc national des Cévennes, ce sont aussi les forêts durables qui sont mises à l'honneur avec le Silvo Trophée, un concours organisé par le parc et le Centre national de la propriété forestière. Baptiste Algoët est le responsable du pôle forêt-chasse au Parc national des Cévennes et il nous présente ce concours forestier.
Alors le Silvo Trophée, c'est un concours forestier, un peu sur le modèle des prairies fleuries, où l'idée c'est donc de mettre en valeur des propriétaires forestiers qui gèrent leur forêt de façon durable. Durable ou multifonctionnel. Alors ça c'est le gros mot, puisqu'on dit souvent que les forêts elles ont trois fonctions. En fait, fonction économique, donc production de bois, et alimentation de toute la filière bois. Ça, c'est la partie qui va rémunérer le propriétaire, en fait. La seule un peu fonction sur laquelle le propriétaire va pouvoir gagner de l'argent. On a aussi une fonction environnementale, on s'imagine assez bien. Préservation de la biodiversité forestière, bien sûr, mais aussi tout ce qui est stockage du carbone, donc lutte contre le changement climatique, préservation de la ressource en eau, de l'air, des sols, etc. Et une fonction sociale, que les gens connaissent généralement bien aussi, avec tout ce qui est espace de ressourcement, bien-être, balade, sport en forêt, cueillette, chasse, et tout. Et d'une manière un peu plus globale aussi, préservation des paysages, en fait. Et donc, tout le challenge d'une gestion durable ou multifonctionnelle, c'est de concilier ces trois fonctions en même temps.
Et donc, c'est-à-dire que si un propriétaire forestier a une forêt, mais dans laquelle il y a une de ses fonctions qui n'est pas pratiquée ou valorisée, il pourra pas concourir.
Alors, il peut candidater. Après, il risque de pas gagner. Du coup, il y a des critères pour candidater. Hein. Il faut être propriétaire, on peut être privé ou communal ou sectionnal. Donc, les forêts de l'État sont pas éligibles, hein, parce qu'ils jouent pas dans la même catégorie que les autres, forcément. Mais sinon, donc, il faut être propriétaire privé ou communal d'une forêt, localisée dans le parc national des Cévennes, pas forcément le cœur du parc, mais tout le territoire du parc, donc l'aire d'adhésion fonctionne également. Et puis après, le propriétaire présentera une parcelle de 2 hectares minimum, ou plus, dans lesquelles il y a eu une coupe au cours des 10 dernières années. Donc effectivement, ne sont pas éligibles là les forêts dans lesquelles il n'y a pas de coupe, puisque par définition, il n'y a pas de gestion, quoi. Et aussi, histoire de pouvoir comparer des choses comparables. Si on compare la biodiversité, on va dire, dans une forêt sans coupe et une forêt avec coupe, forcément, on va avoir un peu du mal. Donc voilà, le propriétaire présentera une forêt, et après, il y aura un jury qui viendra un peu évaluer tout ça selon ces trois critères.
Et alors, depuis quand il existe ce concours ?
Alors, le concours, il est né dans les années 2010-2015, dans le Grand Est de la France, dans la région Grand Est. Donc, c'est une initiative à la base des PNR de cette région-là. Et l'idée a été reprise au niveau du Massif Central par les parcs naturels régionaux et donc le parc national des Cévennes au niveau du massif central. La première édition, c'était 2018. Voilà, donc il y en a eu une édition en 2018, une autre édition en 2021, une en 2023 et en 2026, on lance la quatrième édition.
Et alors sur les trois fonctions de la forêt que tu as évoquées tout à l'heure, économique, sociale et environnementale, est-ce qu'il y a une de ces trois fonctions qui va un peu primer quand même pour remporter le Silvo Trophée, ou ça va vraiment être analysé par les jurys de manière équitable, les trois aspects ?
Non, alors c'est analysé de façon équitable. En fait, le jury va être composé de 6 personnes regroupées en 3 binômes. Donc on aura 2 spécialistes de la sylviculture, des gestionnaires forestiers purs et durs, on va dire, voire parmi le binôme de sylviculteurs, il y a même il y en a un qui est entrepreneur de travaux forestiers, donc qui pourra aussi évaluer la qualité de l'exploitation forestière, ce genre de choses. On a un binôme qui va être composé d'environnementalistes, hein, de spécialistes de la biodiversité, donc un pédologue notamment et un botaniste du parc. Et on aura un binôme représentant des usagers, donc une élue communale, une conseillère municipale, et la directrice de la filature du Mazel, avec une approche un peu artistique aussi. Et donc chaque jury va parcourir la forêt, échanger avec le propriétaire, et il a une petite grille d'évaluation. Alors c'est un bien grand mot, parce qu'il y a des notes et des critères, mais c'est plus un guide de lecture et d'analyse, quelque chose pour l'aider à, on va dire, guider son regard sur la forêt plus que d'une grille de notation très, 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 très bête et méchante du niveau scolaire, quoi. Et c'est le jury qui, ensemble, discute, se met d'accord pour, à la fin des 2 journées, définir un lauréat.
Et les propriétaires forestiers, quels intérêts ils ont à concourir ? Déjà, est-ce qu'il y a un lot à la fin qu'on peut gagner ? Ou au-delà de ça, en fait, pourquoi est-ce qu'un propriétaire forestier voudrait participer au Silvo Trophée ?
Il n'y a pas grand-chose à gagner, soyons honnêtes, ne le faites pas pour l'argent. Il n'y a pas un lot particulier, il y aura des petits lots, mais plus de l'ordre du symbolique. Voilà, un petit diplôme, un petit trophée pour le vainqueur, et puis des petites récompense, mais l'idée c'est vraiment de mettre en avant qu'il va pouvoir bénéficier d'un peu d'une valorisation, donc on pourra utiliser sa forêt derrière pour réaliser des opérations de communication, emmener des groupes en forêt, un peu utiliser sa forêt comme une vitrine, et puis l'idée c'est aussi de valoriser ce qu'il fait, alors à la fois auprès des autres forestiers, en fait, l'idée c'est d'inspirer, en fait, de montrer ce qui se fait de bien pour inspirer d'autres forestiers à faire un peu la même chose. Et aussi de communiquer plus largement un peu auprès du grand public pour montrer que c'est souvent des choses, hein, qui font un peu polémique, des fois la gestion forestière, les coupes de bois, etc. De montrer qu'on peut faire de la gestion forestière, on peut couper du bois tout en préservant les autres fonctions et faire les choses bien. Donc voilà, pour résumer, le propriétaire, il le fait avant tout pour l'honneur quand même. Mais à noter aussi quand même que les propriétaires, ce qu'ils apprécient particulièrement quand ils postulent et qu'ils participent aussi au trophée, parce que c'est la 4e édition, donc on a un peu de recul maintenant, c'est les échanges avec le jury le jour J, et puis tout ce qui en découle après, c'est une façon de discuter avec des professionnels qui ont des visions, des spécialités très différentes. Et donc, indirectement, ils bénéficient aussi comme ça de conseils à la fin pour dire, bah voilà, ça, vous le faites bien, ça, vous pourriez vous améliorer un peu comme ça. Et donc, ça peut l'aider aussi à faire les choses encore mieux, on va dire.
Alors toi, ton rôle au Parc National des Cévennes, c'est donc, tu es le responsable, on l'a dit, du pôle forêt, mais aussi de la chasse. Et moi, je me demandais justement comment la pratique de la chasse dans une forêt, en quoi est-ce que c'est un critère aussi pour le Silvo Trophée ? Est-ce que c'est analysé aussi la manière dont on pratique la chasse ou pas du tout ?
Alors, on va le regarder parce que la faune sauvage et les cervidés, les onglets sauvages ont un impact sur la régénération forestière, et donc faire de la gestion cynégétique, la gestion de cette faune sauvage par la chasse dans sa forêt fait partie des éléments de gestion. Mais on va quand même, donc ce sera à regarder, est-ce qu'il y a une attention du propriétaire qui est porté, mais l'idée c'est quand même avant tout de se focaliser sur les pratiques, on va dire, purement forestières.
Donc, on l'a dit, l'appel à candidature, il est ouvert. Non, je ne sais pas si on l'a dit, mais l'appel à candidature, voilà, il est ouvert jusqu'au 15 mars 2026.
C'est ça.
Ça laisse encore du temps pour postuler. Et donc, les visites voilà, sont prévues 19 et 20 mai 2026. Et il faut bien sûr que les propriétaires soient présents ce jour-là.
Voilà, les propriétaires s'engagent. Donc, il y a un petit dossier de candidature à remplir hein, qui est disponible sur le site internet du Parc National. Il y a un petit dossier à remplir pour décrire un peu sa forêt, les objectifs de gestion, la parcelle candidate, qu'est-ce qu'on y a fait, comment on a mené la gestion dans cette forêt. Le propriétaire s'engage effectivement à être présent une demi-journée ces jours-là. Donc il y aura une prévisite calée avec lui pour caler un petit itinéraire avec le jury. Et puis après, on passe une demi-journée ensemble avec le jury. Parce que c'est effectivement important que le propriétaire puisse être là pour présenter sa forêt, expliquer ce qu'il a fait, etc. Et voilà, c'est on va dire, au-delà de l'aspect concours, qui en fait est plus un prétexte qu'autre chose, ce qui est vraiment intéressant, c'est ces moments d'échange et ce parcours ensemble de cette forêt, quoi.
Est-ce que toi, tu as une forêt préférée dans le parc
national ? Ah non, il y en a beaucoup et je ne veux pas influencer le résultat du jury, donc je m'y risquerai pas.
Et alors, au-delà du parc, on va sortir du parc, même de la Lozère, voire de la France. Est-ce qu'il y a une forêt qui t'attire vraiment, que tu aimerais un jour pouvoir visiter ou que tu as déjà visité et qui était extraordinaire ?
Alors, il y a longtemps... Son nom est en train de m'échapper. La forêt, le bois de Paillolive en Ardèche, qui a une certaine réputation, où c'est une forêt vraiment extrêmement, qui est une forêt ancienne et mature, une forêt un peu mystique, un peu magique. Et j'ai eu l'occasion d'y aller au mois d'avril l'année dernière, en plus dans une ambiance ultra humide. C'était vraiment, vraiment sympa. Ça, c'était pour l'aspect plutôt local, parce qu'on est vraiment, on est juste à côté du Parc National des Cévennes. Et par contre, après, dans les autres forêts mythiques, il y a celle de Białowieża en Pologne, je crois, qui fait partie aussi un peu des joyaux forestiers européens.
C'est une des dernières forêts primaires, non ?
Elle est souvent qualifiée comme ça, même si est-ce que le terme primaire fait toujours un peu question. Mais oui, c'est ça. Donc, il paraît qu'elle est magnifique. Mais j'ai déjà pas eu le temps de visiter toutes les forêts du parc, alors aller jusque là-bas, c'est pas pour tout de suite, je pense.
Un jour, peut-être. Et pourquoi ça pose question, si on peut prendre encore juste quelques minutes, pourquoi tu dis que le terme forêt primaire pose un peu question ?
Ah, parce que des forêts primaires, c'est des forêts dans lesquelles il n'y a eu aucune influence. L'homme n'est pas du tout intervenu depuis la nuit des temps, on va dire. Donc, enfin, ou en termes forestiers, disons que pour retrouver une forêt primaire, on sait qu'il faut plusieurs siècles, voire millénaires. Et donc, on est bien rarement capable de dire que l'homme n'a pas mis les pieds en forêt depuis... Enfin, voilà,
c'est un concept voilà. Plus théorique.
Non, ça existe. Il y en a encore en forêt, notamment en forêt équatoriale, hein, en Amazonie, dans le bassin du Congo. Il en reste. En Europe, voilà, il en reste des petits lambeaux. Et donc, oui, on considère celle-là comme une forêt primaire. Mais c'est vrai que c'est pas impossible qu'il y ait eu quand même un peu d'exploitation il y a quelques siècles, quoi.
Eh ben merci beaucoup, Baptiste, d'être venu nous présenter ce Silvo Trophée. Je remettrai toutes les infos sur aussi la page de Radio Bartas. Et sinon, vous retrouvez tout ça sur le site internet du Parc National des Cévennes.
Merci.
Merci. What do you do in April? I open my bill in May. I sing night and day in June. I change my tune in July. Far off I fly in August away. Away.
What do you do in April? I open my bell in May. I sing night and day in June. I change my tune in July. Far off I fly in August away.
Voilà, pour rester encore un peu dans une ambiance forestière sur Radio Bartas, c'était le chant du coucou, The Cuckoo Song, du génial musicien multi-instrumentiste britannique Cosmo Sheldrake, qui reprenait ici une chanson de Benjamin Britten. Et Cosmo Sheldrake, c'est aussi une sorte d'audio naturaliste parce qu'il utilise dans sa musique beaucoup de sons d'animaux et de la nature qu'il part enregistrer un peu partout. Ce morceau, il figure sur l'album qui s'appelle Wake Up Calls, qu'il a composé durant 9 ans entre 2011 et 2020 et que je vous invite à écouter en entier. C'est vraiment magnifique. Chaque morceau est composé autour de l'enregistrement du chant d'un oiseau et en plus un oiseau qui figure sur la liste des espèces d'oiseaux menacées au Royaume-Uni. Et c'est fou car Sheldrake, donc le nom de famille de Cosmo Sheldrake, eh bien c'est le nom d'un oiseau, le tadorne de Bellon en français. C'est un genre de mélange entre une oie et un canard. Voilà, donc cela fait de Cosmo Sheldrake un aptonyme, c'est-à-dire une personne dont le nom reflète l'occupation, la personnalité ou le métier, comme le chorégraphe Benjamin Millepied, ou comme mon collègue Léo Lhomme, qui est certes technicien radio et co-organisateur du Floracopoli, mais qui est aussi et peut-être avant tout un homme.
Midi et des poussières sur Radio Bartas.
Et on continue cette émission en restant dans le thème d'une gestion agricole durable avec l'association Terre de Liens qui œuvre à la préservation du foncier agricole. Ils seront présents au Floracopoli où ils viennent proposer un jeu de rôle sur ce thème et c'était l'occasion d'en savoir plus sur leur travail. Lise Guillermin est l'animatrice territoriale Gare Lozère pour la branche Languedoc-Roussillon de l'association Terre de Liens et on a échangé par téléphone. Elle nous fait un petit peu le tour des activités de l'association et nous annonce les événements à venir.
Alors l'association Terre de Liens Languedoc-Roussillon, c'est une des associations territoriales du mouvement Terre de Liens qui se décompose en plusieurs entités, mais avec un objectif commun de travailler pour la préservation des terres agricoles et de favoriser l'installation agricole en agriculture biologique, paysanne, sur des fermes de manière sécurisée. Et une volonté également de préserver le foncier agricole sur le long terme. Donc au niveau de l'association territoriale Languedoc-Roussillon, on est 6 salariés et on travaille en fait avec une équipe de 90 bénévoles dans un souci d'éducation populaire. Le cœur de Terre de Liens, c'est aussi d'accompagner des citoyens et des citoyennes ancrés localement sur cette thématique du foncier agricole pour les former et leur permettre de monter des projets en fait sur les territoires.
Vous évoquez donc les bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement donc, qui sont-ils et quel est leur rôle au sein de l'association Terre de Liens ?
Alors, les bénévoles Terre de Liens, c'est un peu tout le monde. Des personnes qui, à un moment donné, ont été touchées par la problématique agricole, l'installation paysanne, l'accaparement du foncier, des territoires qui sont artificialisés. Et donc, il y a différentes missions bénévoles. Une des missions accueil de porteurs de projets. Donc, les bénévoles sont formés pour accueillir des personnes qui sont en recherche de foncier agricole ou qui proposent du foncier agricole. Après, Terre de Liens travaille en partenariat avec les autres structures agricoles du territoire. Elle n'a pas vocation à travailler seule dans son coin. Donc, l'idée, c'est d'aller travailler, par exemple, avec les ADA, les chambres d'agriculture, pour voir est-ce que des offres de foncier et des porteurs de projets pourraient coïncider. Sur les fermes qui ont été acquises, donc par exemple, Languedoc-Roussillon, on a 29 fermes début 2026 sur toute la région. Et ces fermes, en fait, il faut assurer un suivi aussi ancré localement pour savoir est-ce que le fermier ou la fermière est confortable dans la ferme, est-ce qu'il y a des besoins de foncier supplémentaire, est-ce qu'il y a des soucis par rapport à tel et tel sujet. Il y a différents degrés d'engagement pour ces bénévoles qui vont avoir ce rôle un peu de courroie de transmission au niveau local. Donc on les appelle les bénévoles référentes fermes.
Et ces fermes-là dont vous parlez, donc les 29 fermes en Languedoc-Roussillon, ce sont des fermes qui appartiennent entre guillemets à l'association Terre de Liens ?
Elles appartiennent à la foncière Terre de Liens. C'est la foncière, du coup, qui acquiert ces fermes-là avec de l'épargne citoyenne, des personnes qui choisissent de mettre leur argent, une épargne solidaire, qui permet, du coup, d'acquérir des fermes.
Et donc ensuite, il y a des fermiers qui viennent s'installer sur ces fermes-là, vous lancez des appels à projets et ensuite vous sélectionnez les personnes intéressées. Comment ça marche ?
Alors, c'est plutôt une rencontre entre une offre de foncier et un porteur de projet. C'est un porteur de projet qui va repérer une ferme. Et du coup, l'équipe Terre de Liens va se mettre au travail pour voir s'il pourrait y avoir une acquisition possible par Terre de Liens. Terre de Liens ne fait pas de réserve foncière, c'est-à-dire n'achète pas des terres pour éventuellement trouver un porteur de projet. On avance vraiment avec un couple cédant et porteur de projet. Et sur le Languedoc-Roussillon, du coup, il y a 70 paysans et paysannes qui sont installés sur des fermes Terre de Liens avec des productions assez variées. Bon, mais bien sûr, il y a de l'élevage en agropastoralisme parce qu'on est sur un territoire de montagne avec cette pratique-là, que ce soit sur le massif Cévenol, mais aussi au niveau des Pyrénées-Orientales. On a des fermes maraîchères, souvent de taille entre 3 et 5 hectares, des fermes maraîchères nourricières, un élevage de poules pondeuses, de la production de blé pour faire du pain.
Et alors là, vous avez donc plusieurs événements à nous annoncer que vous allez proposer en Lozère très prochainement. Donc le premier, c'est l'organisation d'un jeu pendant le festival Floracopoli.
Tout à fait. Alors du coup, le Foncijeu, c'est un jeu de rôle agricole, simplifié, où on se rend compte en fait des différentes dynamiques qui se créent autour du foncier agricole. Il faut savoir que ce jeu a été créé par Camille Clément, qui est chercheuse à l'INRAE, dans le cadre d'un projet de recherche sur l'inégal accès au foncier agricole. Donc pendant une heure et demie de temps, on va avoir un rôle. Donc on sera soit éleveur avec des besoins de foncier pour faire pâturer ses bêtes, soit un propriétaire qui souhaiterait mettre à disposition tout en gardant la main sur la mise à disposition de ses terres. Et donc c'est un jeu qui se passe en 3 heures de temps avec 1 heure et demie de jeu et 1 heure et demie de débrief de discussion pour aller creuser un peu les faits de jeu et ce qui s'est passé sur cette partie. Sachant qu'il y a aussi la présence d'un maire, par exemple, sur ce jeu, un promoteur immobilier, donc voilà, on imagine bien tout ce qui peut se tisser, avec notamment une révision du PLU qui est en cours pendant le jeu.
Et ensuite, il y a un second événement qui est en période voilà, électorale pour les élections municipales, qui est à destination donc, des élus ou des futurs élus, qui sera proposé à Florac aussi.
Alors, ce n'est pas à Florac, c'est un webinaire. Et donc, c'est un format d'une heure et demie. C'est le 3 février de 12h30 à 14h. Donc, c'est un webinaire de sensibilisation sur comment est-ce qu'une commune peut s'emparer de cette question du foncier agricole. Quels sont ces outils qui sont mis à sa disposition pour, par exemple, acheter une parcelle maraîchère pour installer quelqu'un pour améliorer l'autonomie de la commune. Comment est-ce qu'on peut faire de la veille foncière pour repérer des terres qui seraient sous-exploitées. Comment est-ce qu'on peut associer d'autres personnes du territoire pour se donner toutes les chances de réussir? Parce qu'on voit bien que s'il n'y a pas à la fois des agriculteurs, des habitants, des élus, ben, ça ne fonctionne pas. Il faut bien mettre tout le monde dans la boucle. Voilà, donc c'est vraiment une vocation de sensibilisation sur 1 heure et demie, prendre quelques contacts et quelques billes en fait pour pouvoir démarrer après une stratégie foncière dans le cadre d'un nouveau mandat dans une commune.
Merci beaucoup Lise Guillermin. Et pour s'inscrire au jeu de rôle de Terre de Liens lors du Floracopoli ou pour participer au webinaire, ça se passe sur leur site internet www.terredeliens.org, lien au pluriel.
Midi et des poussières.
Il hier, j'ai diffusé dans cette émission, pour celles et ceux d'entre vous qui peut-être s'en souviennent, le morceau Walk On By de Dionne Warwick, un magnifique morceau écrit par Burt Bacharach pour Dionne Warwick en 1963. Et bien aujourd'hui, je vous le propose sous sa forme samplée par la grande Doja Cat sur le titre Paint the Town in Red, sorti lui en 2023, soit pile 60 ans plus tard.
I said I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Trick, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. I put good thought in my kidneys. This small jug don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no without penalties. Tell me yo if you send for me. I'm going to glow up one more time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times, ugh. You can't take this one nowhere, ugh. I look better with no hair, ugh. Ain't no sign I can't smoke hair, ugh. Yeah. Give me the chance and I'll yeah. go there. Trick, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care. Town red. Trick, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little bitch. She a rebel, she put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. She the devil, she a bad little bitch. She a rebel, she put her foot to the pedal. It'll take a whole yeah. lot for me to settle.
Yeah. Now you try, you could use a revamp with a new vibe, sis. I don't need a big feature or a new sidekick. I don't need a new fan, cause my boo like it. I don't need to wear a wig to make you like it. I'm a two-time, you ain't new, I'd win. Throw a shot like you tryna have a foot fight then. All my ops waiting for me to be you, I bet. Said I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Bands ain't dumb, but extreme is all. I'm a demon lord, fall off what, I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame yeah. ain't something that I need no more.
Yeah, cause trick, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Trick, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red.
C'était Doja Cat sur Radio Bartas avec ce titre Paint the Town in Red. Et on termine cette émission avec la chronique hebdomadaire que nous vous proposons en partenariat avec Cinéco tous les mercredis dans Midi et des Poussières sur Radio Bartas. C'est la chronique Parlons Ciné avec Cinéco.
Parlons Ciné
avec Cinéco.
La rubrique cinéma de Cinéco.
L'association de cinéma itinérant en Cévennes. Sur Radio Bartas.
Et aujourd'hui, c'est toi, David, bénévole à Cinéco Saint-Enémy, qui vient nous présenter un film. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, tu viens nous parler du film La Voix de Indra Jab.
Oui, tout à fait. C'est un film qui est sorti à l'automne 2025. Et c'est un film qui est réalisé par la réalisatrice tunisienne qui s'appelle Kauter Benania. Pardon pour la prononciation, qui est sûrement très mauvaise. La réalisatrice a été connue par le grand public il y a 2-3 ans avec Les Filles d'Olfa, son précédent film pour lequel elle avait été récompensée au Festival de Cannes et vraiment qui lui a permis de confirmer son style que l'on retrouve ici dans La Voix de Indra Jab entre fiction et documentaire. Indra Jab, c'est une petite fille de 6 ans qui se retrouve prisonnière dans une voiture à Gaza qui est écrasée sous les bombardements autour de ses oncles et tantes qui sont décédés dans le véhicule. Elle arrive malgré tout à passer des appels qui sont interceptés par les centres de secours, donc le Croissant Rouge, l'équivalent de la Croix-Rouge là-bas, et le centre de secours essaie de lui porter secours en envoyant une équipe d'ambulanciers. Alors la particularité de ce film, c'est qu'il y a donc je disais qu'il y avait un mélange de documentaire et de fiction, c'est que l'enregistrement, tous les enregistrements vocaux que l'on entend par la petite fille sont des véritables enregistrements. C'est une véritable conversation qui a été enregistrée le 29 janvier 2024. Tout autour, le film, lui, se passe dans les bureaux de l'association, de l'ONG, et tout est joué par des comédiens. Donc il y a vraiment et c'est ce qui fait une des forces du film, c'est qu'il y a un mélange entre réalité et fiction et qui reste totalement tragique, hein, dans son propos, qui reste néanmoins très très important, qui donne une autre lecture, une autre vision, un autre éclairage du conflit israélo-palestinien. Et elle maîtrise ce procédé à merveille. Je vais juste faire une toute petite comparaison avec Les Filles d'Olfa, qui était aussi un très très beau film, où Olfa, donc est mère de 4 filles, dont 2 ont disparu, étant engagées dans le djihad. Et ces 2 filles qui n'étaient pas présentes donc à l'écran, la réalisatrice a souhaité les faire jouer par des comédiennes. Et donc il y avait tout un dialogue aussi entre le jeu et le documentaire. Voilà, les comédiennes devenaient les filles, mais ne l'étaient pas totalement. Dans ce travail de documentaire, il y avait un mélange et un résultat qui était tout à fait éblouissant, avec une image et des lumières qui étaient très très belles. Donc c'est vraiment un parallèle que l'on peut faire à ce film de Kauter Benania, donc La Voix de Indra Jab, qui reste un très très beau film et qui mérite d'être vu, ouais.
C'est intéressant, ce procédé tel que tu le décris, on a l'impression que ça peut aussi produire quelque chose de très cathartique, presque de l'ordre de la réparation, en fait, de combler ou de poursuivre un réel tragique avec quelque chose de la fiction. C'est comme une séance de psychologie collective, on pourrait croire.
Oui, tout à fait. J'avais pas du tout, merci pour cette approche, hein, j'y avais pas du tout pensé. Oui, on pourrait, enfin en tout cas pour Les Filles d'Olfa, c'était probablement le cas, hein, puisque cette mère qui apparaît à l'écran dès le début du film, face caméra, entame, donne dans son propos et raconte son histoire et donne le ton du film. Là aussi, on est sous un autre volet dans La Voix d'Indra Jab, dans le sens où ça se passe tout dans un centre de secours. Mais comme je disais tout à l'heure, on entre par une autre porte dans le conflit israélo-palestinien. Ça nous donne une autre fenêtre au-delà de ce que nous peuvent nous montrer les médias au quotidien.
Et alors toi, qu'est-ce que tu as ressenti en le voyant? Parce qu'on imagine que c'est très fort, c'est très dur d'entendre déjà commencer par la voix de cette petite fille. On a tous les images en tête de cette guerre terrible qui a cours. Comment on se sent en voyant ce film?
Alors moi, je vous en parle, mais c'est vrai que je savais pas grand-chose de ce film en allant le voir. Je savais qu'il y avait un procédé de mélange documentaire à fiction, je savais pas lequel, et on le comprend très très vite. Et très vite, il fonctionne, tout s'imbrique, et on rentre dans le processus. Il y a un côté un peu, il y a eu quand même une montée en puissance du suspense, puisque voilà, je vais pas tout dévoiler, mais la liaison coupe, ils essayent de la rappeler, elle rappelle pas, donc il y a quand même une montée en puissance du suspense, et on suit ça un peu comme, on est avec eux, on est de tout cœur pour les encourager, on a envie de les aider, de franchir l'écran et de rentrer dans ce centre et passer les appels avec eux. Après, le propos est tellement terrible par rapport à ces bénévoles du Croissant Rouge qui sont en train d'écouter et d'essayer de collecter un maximum d'informations tout en essayant de rassurer et tranquilliser la petite fille qui trouve le temps beaucoup, beaucoup trop long et que les secours n'arrivent pas.
Et en tout cas, ce que vous proposez à Saint-Enimi avec Cineco pour ce film, pour justement un peu anticiper le fait que ça puisse être assez dur quand même à voir et bouleversant, vous proposez une séance un peu particulière.
Oui, les films en période hivernale à Cineco sont programmés à 20h30. Ici, on l'avance à 18h30. Et pour proposer un repas partagé, voilà, pour que les personnes qui le souhaitent puissent rester, en discuter avec les autres spectateurs ou parler d'autres choses, ou voilà, me créer un moment convivial pour être ensemble après ce film qui n'est pas très long, hein, il dure 1h30, mais c'est vraiment un très très beau film qui, voilà, qui mérite d'être vu dans tous les sens du terme.
Merci beaucoup David, et je pense que je vais garder ton expression donner envie de franchir l'écran. Je pense qu'on pourrait utiliser cette expression pour qualifier un bon film. C'est un film qui nous donne envie de franchir l'écran pour tout un tas de raisons, là pour cette envie de participer, d'aider, ou même juste pour vivre dans la vie des personnages qu'on voit à l'image. Franchir l'écran, voilà ce qu'on ressent quand on voit un film qu'on aime. Merci beaucoup.
Merci Raphaël.
À bientôt. Voilà, cette chronique vous l'annonçait un peu en avance. La voix de Indra Jab sortira sur les écrans Sevenol d'ici quelques semaines. Il faut encore un peu patienter avant une première projection à Villefort le 1er février à 20h30. Et après, ce sera le 18 février à Florac, le 19 à Saint-Enimi et puis le 22 à Vébron. Voilà, toutes les dates et les horaires sont sur le site de Cineco. Et sachez que vous pouvez retrouver toutes ces chroniques dans la rubrique Parlons Ciné avec Cineco sur le site de Radio Bartas. Et on a déjà reçu quelques messages de certains et certaines d'entre vous qui êtes intéressés de nous rejoindre pour penser le renouveau de la musique sur Radio Bartas. Alors merci beaucoup pour vos messages. Et les portes sont encore grandes ouvertes. N'hésitez pas à nous écrire à musique@radiobartas.net pour nous envoyer des morceaux, nous signaler des choses que vous ne voulez plus entendre ou pour participer à un grand nettoyage de printemps de la playlist actuelle. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute et on se retrouve demain pour un prochain numéro.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.